En direct, voilà comme prévu depuis le rond-point de Saint-Genis, la radio internet alternative Into the Wild, GEX, radio locale, même si c'est une radio internet. Radio internet, donc ça s'entend dans le monde entier. Donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés pour connaître un peu plus le vrai visage, enfin le visage tout court, quoi, parce que des gens qui incarnent aujourd'hui, qui portent, qui défendent, qui mobilisent les gilets jaunes autour du pays de GEX. On diffuse en direct dans des conditions un petit peu expérimentales, voilà, avec voilà, la 3G suisse sur le téléphone qui permet de se connecter au réseau là-haut. Donc on pirate un peu tout. Et on a ouais, une vingtaine aujourd'hui de représentants là, des gilets jaunes qui vont venir présenter, s'introduire, partager avec vous une tranche de vie, hein, une tranche de vie qu'on a la chance d'avoir ici au rond-point du CERN. Alors, on va partager la parole entre tous ceux qui ont envie de la prendre. Il n'y a que trois micros, donc on va se faire circuler les micros parmi les gens qui ont envie de parler. Et on va commencer par alors Raphaël, Margot et Alex qui vont voilà qui se sont sentis partie prenante dans ce défi de faire une petite émission en direct du rond-point. Alors voilà, qui c'est qui veut déjà s'introduire, prendre la parole, raconter un petit peu peut-être l'histoire, parce qu'il y a déjà une histoire, hein, ça fait 2 semaines, c'est 2 semaines ou 3, ouais, 2 semaines, ouais. Hein, combien? Il faut parler dans le
Là,
micro.
ça fait bien maintenant 3 semaines, un mois, hein, que ça a démarré, bien avant le 17.
Ouais,
Alors, si vous voulez, exactement, ça a démarré au mois de mai avec une pétition de Priscilla Ludowski sur la hausse des carburants et sur la transition écologique. C'est parti de là. C'est parti à partir de ce moment-là, donc du mois de mai. Puis derrière, dans le mois de courant du mois de novembre, on a Éric Drouet qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux à faire un mouvement des Gilets jaunes. C'était pas encore les gilets jaunes, pardon, mais c'était un mouvement où ils demandaient à descendre dans la rue le 17 novembre pour les hausses de carburant et puis toutes les taxes, la surtaxe qu'on a en France. Voilà. De là, après, c'est un jeune qui a fait une vidéo sur YouTube, qui a balancé son gilet jaune sur le tableau de bord et qui a dit à tout le monde, voilà, si on veut se reconnaître, mettons le gilet jaune sur le tableau de bord et comme ça, on saura qui soutient le mouvement et qui ne le soutient pas. Voilà la réelle histoire du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Après, quand on dit Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen, ni plus ni moins, c'est juste un mouvement citoyen, parce que je pense que chaque citoyen se reconnaît dans ce mouvement-là, du fait de la hausse des taxes, de la pseudo-transition écologique que le gouvernement essaie de nous faire passer sous couvert des hautes instances de la finance. Et à un moment, il y a un gros ras-le-bol, en fait. Il y a un gros gros ras-le-bol et au fur et à mesure qu'on creuse, on se rend compte des inepties de notre gouvernement, de tout ce qui va pas, tout ce qui cloche. Et du coup, au fur et à mesure de creuser, on se rend compte que finalement, c'est pas juste quelques taxes qu'il va falloir baisser, mais il va falloir changer le système. Il va falloir écraser la Ve République et passer à autre chose. Donc passer à autre chose, ce que j'entends par là, c'est une démocratie directe, comme en Suisse, où c'est le peuple qui est souverain, et c'est le peuple qui vote ses lois et ses référendums. Voilà, terminé. Après, les autres instances qui dirigent pour nous, ça suffit. Il y en a marre, parce qu'ils se tirent la couverture à eux. Ils font que des lois qui les couvrent eux, qui les mettent financièrement bien. Et puis nous, on a les miettes de pain. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a une grosse partie de la population qui, même avec un salaire, on va dire, entre 1200 et 1500 euros, ont des fins de mois très difficiles, voire des milieux de mois déjà difficiles. Donc voilà où on en est exactement aujourd'hui et pourquoi du comment.
Ok, donc on sent voilà un engagement qui dépasse le début de l'histoire il y a un mois où c'était peut-être une anecdote, hein, cette histoire de petites vidéos YouTube, de petits sondages.
C'était une bouteille jetée à l'eau.
Ouais, une bouteille jetée à l'eau, et cette bouteille jetée à l'eau, elle a ricoché, elle a rencontré plein de voilà, il y a plein de gens qui s'en sont emparés avec du coup des revendications qui ont continué d'augmenter, donc on en enfin augmenter, c'est pas augmenter, mais disons que le champ, c'est vrai qu'au départ il y avait vraiment cette idée que c'était la taxe sur le diesel, et puis il y avait cette sensibilisation en espèce de...
C'était la goutte qui a fait vraiment déborder le vase. L'histoire de cette taxe du carburant, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Derrière, il y a, comme disait Alex, il y a d'autres choses qui ont fait que on a tous rejoint ce mouvement, parce que le ras-le-bol, il était là, pas seulement le gasoil, mais voilà, les conditions de vie de tout le monde, l'histoire aussi des 80 km/h et ainsi de suite, toutes les choses qui se sont accumulées les unes derrière les autres qui nous ont amené à un ras-le-bol, quoi. Et on a bien vu que c'était, excusez-moi du terme, mais du foutage de gueule.
Du matraquage fiscal.
Ouais, donc il y a, alors c'est peut-être dans l'opinion un peu, l'opinion, les gens qui regardent ça à la télé sont pas, peut-être pas sentis concernés forcément dès le début par cette question des 80 km/h et de l'augmentation de la taxe diesel. Parce que bon, il y a des gens qui du coup ça change pas leur niveau de vie, mais j'imagine que le mouvement a augmenté au niveau de la taille des gens qui se sont ralliés, qui même si ça les affecte pas directement, c'est pas, enfin la discussion est passée de ce petit symbole de l'augmentation du diesel, là, on n'arrive plus à vivre tout court. Et du coup, il y a quelque chose qui a changé, qui fait que, je sais pas, peut-être il y a 2 ans, c'était même pas aussi grave que maintenant. Il y a un truc qui fait que là, on est vraiment dans une situation pas exceptionnelle, mais qui est pire qu'il y a 2 ans et qui fait que c'est vraiment, on peut sentir qu'il y a un ras-le-bol qui peut pas, qui va engendrer vraiment une résistance, une rébellion, un contre-mouvement, ou bien on est encore pas complètement là.
Disons que c'est l'effet de 40 années d'une politique complètement hors contrôle et hors réalité, déconnecté de la vie, parce que ils vivent dans une opulence parfaite, hein, la plus totale. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mandats, au fur et à mesure des gouvernements, ça augmente les taxes, ça augmente les taxes, ça augmente les taxes. Mais à chaque fois, on va nous dire, oh, tiens, on vous augmente un peu le SMIC, 1,2%, là, comme au 1er octobre. 1,2%, ça rajoute 17 balles, 17 euros. À quelqu'un par mois, 17 euros par mois, c'est de la poudre aux yeux. Qu'est-ce qu'on fait avec 17 euros par mois? Je veux dire que quand on augmente derrière, on fait des augmentations, mais faramineuses, monstrueuses. On va avoir une augmentation, on va dire à 30, 35%, 40%, et puis derrière, on va te dire, tiens, on te donne 1,2%. Foutage de gueule, je veux dire, encore le Premier ministre qui nous sort, bon, mais pour le 1er janvier, on va vous augmenter de 3% net le SMIC. Erreur. Là-dedans, il inclut les 1,2% du 1er octobre plus l'inflation. Donc les 3 euros, c'est une poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme ils aiment dire. Et puis derrière, il te dit, bon, ben on va stopper les taxes pour 6 mois. On s'en fout de les stopper pour 6 mois. Si c'est pour les reprendre dans 6 mois, on va tout brûler dans 6 mois. Il y a un moment, ça suffit. Là, on ne demande plus, ne serait-ce qu'un allègement. Là, on demande un changement total de directive. Parce que tout est mensonge. Tout est mensonge et tout est bon à la finance. C'est-à-dire que le milieu de la finance, on va pas citer les noms, hein, Rothschild, tout ça, on va pas les citer, mais on en est là, je veux dire quoi. C'est ces gens-là qui contrôlent, c'est ces gens-là qui dirigent. C'est plus le gouvernement. On nous dit que c'est le gouvernement, mais c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, ils sont à leur botte et ils font en sorte d'enrichir toujours plus les riches et d'appauvrir toujours plus les pauvres et même les classes moyennes à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je dis ça, quand on voit qu'on retire l'ISF, l'ISF, ça se compte en milliards, ce qu'on pourrait récupérer en taxes chaque année. L'ISF, on le retire. On retire tout ce qui est pour les riches, mais par contre, les pauvres, nous, c'est nous les payeurs, c'est nous les pollueurs. Pourquoi nous, on est pollueurs avec une petite voiture diesel, alors qu'un super tanker qui est sur les mers, il consomme 3000 litres de mazout, on va dire, par jour.
Ça représente quand même 56 000 voitures à lui tout seul.
Voilà, il y a un moment où, ok, moi je suis d'accord, peut-être je pollue avec ma voiture, mais il y en a qui polluent beaucoup plus que nous. Total, c'est le troisième pollueur au monde. Et lui, il est exonéré de taxes.
Oui, alors c'est vrai qu'il y avait au début du mouvement cette idée que ceux qui étaient parmi les gilets jaunes, en fait, ils voulaient polluer, quoi. Ils voulaient avoir le droit de... Ah, ça, c'est un truc qui a été très très vite. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, même c'est l'inverse. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de. C'est pas parce qu'on est qu'on subit l'augmentation de l'essence et que ça change le niveau de vie de manière dramatique que du coup, on se retrouve anti-transition écologique, anti.
C'est pas possible.
Voilà.
Alors c'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui.
Alors qu'en plus, ceux qui polluent le plus, c'est justement les gens qui en profitent le plus.
À l'heure d'aujourd'hui, on a tous une conscience d'une transition écologique réelle. C'est-à-dire qu'on veut tous vivre dans une planète saine. Ce qui va être difficile parce qu'on l'a déjà bien polluée. Mais on est tous conscients qu'il faut qu'on fasse des efforts. On fait tous des efforts à notre niveau. Je pense que on a tous attaqué le tri sélectif, on a tous attaqué faire attention aux choses les plus basiques, ne serait-ce que ne plus jeter les mégots par terre, ne plus jeter les poubelles n'importe où.
Faire attention à sa consommation.
Voilà, faire attention à sa consommation.
Chercher ses produits, plutôt faire attention à aller vers les producteurs locaux qui nous apportent justement des bons produits frais et locaux. On a de la chance sur le Pays de Gex, justement, on est super bien fournis. On a pas mal de petits commerces qui sont là pour nous et qui ont vraiment des super produits. Moi, je préfère justement aller vers les petits producteurs et aller avec mes petits bocals, mes petits sacs vides pour aller après les remplir. Et ça me fait moins de déchets et donc moins d'emballage et donc moins de pollution.
Et du coup, là, bon, les Gilets jaunes, c'est une population hétérogène. Vous ne connaissiez pas avant.
Pas du tout.
Vous n'êtes pas venu là pour fêter l'anniversaire de je ne sais pas qui. Hein.
Aucunement. Voilà.
Donc, on sent bien que vous êtes
voilà, c'est très ouvert. Il y a toutes les classes sociales. Attention. Ouais, ouais. Il n'y a pas que des gens qui vivent avec 1200 euros par mois. Il y a des gens qui ont des salaires un peu plus élevés, mais qui se rendent compte des aberrations que le gouvernement essaye de nous faire gober. Sur cette transition écologique, on est en train de nous dire il faut arrêter le diesel, il faut sortir de l'énergie fossile. En même temps, on valide à Total de pouvoir aller forer en Amazonie un nouveau puits de pétrole qui nous demande 500 hectares de déforestation. Qui derrière va puiser le pétrole pendant 3 à 12 ans.
Alors
la montagne
côté,
d'or à côté, voilà. C'est pareil, je veux dire, ça c'est pour l'or, mais l'extraction d'or va nous coûter aussi énormément.
Alors qu'à l'heure actuelle, on sait justement produire du biocarburant et permettre de moins polluer. On a les solutions pour. En tout cas, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans ce sens-là. Et moi, je ne comprends pas pourquoi à l'heure actuelle, le gouvernement ne met pas ça encore en place. Des biocarburants et, au lieu de forer du pétrole. Et voilà, ça ne rapporte pas assez visiblement pour eux.
Donc ça, cette démarche-là, il y a un mois, elle n'existait pas. Ça s'est construit au fur et à mesure du mouvement, cette prise de conscience collective.
Non, elle était là dès le départ, justement.
Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire passer ce message depuis très longtemps. Beaucoup, beaucoup.
La COP, justement, la COP 21 qui a été faite, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a été réitérée il y a quelques jours.
Oui, la COP 24 en Pologne, du coup.
Voilà, exactement. Et donc, on remarque que rien n'a changé. En un an, il y a eu beaucoup d'objectifs qui étaient mis, mais par contre, rien n'a changé. Vous pouvez vous renseigner sur
Argentine.
Plein de chaînes YouTube, notamment Partager, c'est sympa. Je suis désolée, je fais un peu de pub aussi. voilà, mais parce qu'il a réussi à faire une petite vidéo claire et compréhensive par tous pour justement dire qu'est-ce qu'était la COP 24. Voilà.
Donc là, quand même, c'est un message que vous partagez tous, c'est le gilet jaune, vous n'êtes pas contre la destruction, la transition écologique et
pas
vous n'êtes pas en train de vous battre pour avoir
pas
le droit
tout.
De polluer.
Non,
on
demande une vraie transition écologique.
On est bien au courant de comment ça fonctionne. Apparemment, en haut, on nous prend pour ceux d'en bas. Mais quand je dis en bas, avec pour une certaine légitimité, ils sont en bas, ils sont petits.
En fait, on est seulement ceux qui ont les...
On est au courant.
On est en bas, mais parce que nous, on a au moins les pieds sur terre.
Voilà, on est en bas, on est au courant de tout, on sait très bien comment ça fonctionne, on se renseigne, on a aussi Internet qui nous donne beaucoup, beaucoup d'informations sur les systèmes qui existent pour pouvoir faire une transition écologique viable, quelque chose qui pourrait être vraiment mis en place correctement et qui fonctionnerait. Par exemple, quand on parle de faire une transition écologique et nous mettre des voitures électriques, faut savoir qu'une voiture électrique, avant même sa première conception, elle pollue déjà, elle pollue énormément sur les autres pays. Moi, je pense, par exemple, comme disait Alex très justement, les pays d'Afrique, comme le Congo, comme l'Asie, et très proche de nous aussi le Portugal, qui vient de trouver deux gisements de lithium qui sont, d'après eux, intarissables. Mais ça va être beau, quoi. On est en train de déplacer la pollution ailleurs. On va peut-être polluer moins, nous, de notre côté, mais là-bas, ça va être une catastrophe. Et on est tous sur la même planète. Il ne faut pas dire que, ouais, on va polluer moins ici. Mais la pollution, elle est partout. C'est sur cette planète, celle où on vit, nous.
Ouais, et du coup, voilà, cette idée que c'est en prenant sa voiture que du coup on va mettre une taxe en plus pour éviter, voilà, pour trouver une solution à cette pollution. Et en fait, ça se retrouve avec les classes défavorisées qui déjà rament, galèrent pour arriver vivre juste normalement. Si en plus il fallait se nourrir correctement, ça serait encore pire. Et donc tout ça, c'est profondément injuste.
On est d'accord. Alors, ce qui est surtout injuste, c'est l'hypocrisie du gouvernement. Quand on a un président comme Emmanuel Macron qui nous dit Le pétrole, c'est pas bibi. Eh ben, si c'est pas bibi, mon cul. Excusez-moi, mais mon cul. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, le baril de pétrole est à 44 euros le baril. Ça nous fait 0,28 centimes le litre. On le retrouve à 1,50 à la pompe. C'est qui, si c'est pas Bibi? C'est pas moi qui fais les taxes, c'est l'État. Je veux dire, donc, nous dire que le baril a augmenté, il a augmenté de pas grand-chose, il a augmenté. On est à 44 euros le baril. 0,28 centimes le litre. Derrière, ils nous le sortent à 1,50 €, ils voulaient monter à 1,60 €, soi-disant sous couvert d'une augmentation du baril. Mais le baril n'a jamais augmenté. Le baril, depuis 2012, il se tient. Il fait des petites hausses, des petites baisses, mais jamais extraordinaire, je veux dire. Donc à un moment, quand le mec il essaie de faire comprendre ça au peuple, mais il nous prend vraiment pour des moutons. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il croit qu'on est 30 ou 40 ans en arrière où il n'y avait que les informations de la télévision qui pouvaient nous donner l'info. Non, l'info, on peut aller la chercher. Les cours du pétrole, ils sont sur le net, au jour le jour, parce que c'est des cours qui se font au jour le jour. C'est-à-dire tous les jours, le taux change, mais tous les jours, on peut aller se renseigner à combien il est le baril. Le baril est à 44 euros le baril. Donc il y a un moment, moi, je ne comprends pas cette hausse en me disant « c'est pas Bibi ». Ah, c'est Bibi, ouais. C'est Bibi.
Ouais, donc, alors, qu'est-ce que fait le gouvernement de ces taxes qui vient prélever un peu plus à chaque fois, pour, sous prétexte de...
Alors,
bah, il a changé la vaisselle, il a changé la moquette. Moi, j'ai pas encore acheté mes meubles de cuisine. Ça fait 2 ans que j'ai emménagé.
Une petite piscine aussi. Dans un fort.
De Brégançon, sur la Côte d'Azur. C'est vrai que la mer,
très utile, très nécessaire.
Mais après, par contre, le TICPE, qui est la taxe carburant. En 2018, on est à 33,8 milliards de recettes. 7,5 milliards sont reversés à la transition écologique.
Où va le reste?
Qu'est-ce qu'on fait du reste, quoi? Moi, si à un moment, on me dit, il y a 33,8 milliards, on en reverse 30 pour une réelle transition écologique, je m'en fous de payer des taxes. On va dans le bon. Maintenant, quand on me dit, je reverse que 7 millions 5 à la transition écologique, il y a un problème. Il y a un gros problème.
Donc cette transition, est-ce que vous en discutez? Est-ce qu'il y a une vision spéciale gilet jaune, ou bien c'est pas du tout l'objectif, parce que l'objectif c'est déjà de mettre en commun.
La vision aussi ici sur site, c'est de mettre en place les poubelles de tri, de rien jeter par terre, de faire attention que le site soit propre. Ça c'est déjà aussi une bienveillance, que tout le monde aussi soit bienveillant sur le site. Toute la nourriture qui nous est apportée, c'est que des dons, et ça on remercie d'ailleurs tout le monde qui nous en apporte. Pas de gaspillage, c'est très important. Voilà, et puis on essaye de faire respecter ça un maximum.
On en discute, et d'ailleurs, on a même des propositions sur d'autres transitions écologiques. Par exemple, moi, j'expliquais à Monsieur Abad qu'il y avait le phénomène des marées vertes, savoir toutes ces tonnes et tonnes d'algues qui viennent s'échouer sur nos côtes. La seule chose qu'on a trouvé à faire avec ces algues, c'est de les détruire, alors qu'on a bien vu que ces algues, elles étaient dangereuses pour les animaux. Elles mouraient, c'est bien qu'il y a bien une puissance sur ces algues-là. Non, on sait qu'on peut faire du bioéthanol avec des algues, mais à côté de ça, on ne sait pas quoi faire de ces algues qui s'échouent sur nos côtes. On les détruise et on n'a pas de solution. On a aussi le chanvre.
La culture du chanvre qui est très importante. Ouais.
Voilà, qu'on peut transformer en beaucoup de choses, en plastique. On peut transformer ça
en textile.
On peut le manger. On peut même faire des vêtements avec, oui.
Surtout que le chanvre nécessite très très peu d'eau
et quasiment
pas de pesticides. Donc c'est des cultures bio. On veut aller dans le bio. On nous parle d'aller dans le bio. On nous parle d'avoir cette tendance bio. Mais justement, reprenons des plantes qui étaient réellement bio.
Ouais, donc il y a vraiment ici une convergence des luttes ou des revendications. Un monde plus juste, au sens où la répartition des richesses fait que y a pas des gens qui se gavent là-haut avec des gens en bas. Voilà, et puis aussi, peut-être une rupture du système qui est basée sur une hyper-consommation, une hyper-production avec une capitalisation des profits, et puis qui est réservée à une élite.
Le monde de la finance, que je vous disais tout à l'heure.
Le monde de la finance. Alors, et du coup, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait des gens qui vous ont amené à manger, voilà, donc localement, donc ça c'est des considérations très globales sur un système, mais localement, là au rond-point de Saint-Genis, il y a aussi une vie qui se développe, il y a des réseaux qui se créent, des gens qui se rencontrent, quelque chose qui se passe, qui se passait pas avant, non?
De l'entraide aussi, oui, effectivement, mais ça c'est justement un mouvement des Gilets jaunes de solidarité, et c'est ça qu'on voit justement, l'entraide et la fraternité des Français, on la retrouve bien là.
Entre gilets jaunes, on s'entraide. Puis il faut pas oublier que c'est quand même 80% de la population en France qui se sentent concernés, pas forcément qui sont là dans la rue à vouloir manifester comme nous on le fait concrètement, mais aussi par des actions comme venir nous emmener des choses à manger, à boire, être là avec nous et nous dire qu'ils nous soutiennent. Voilà, c'est tout un ensemble en fait. Voilà, c'est pas simplement que les gilets jaunes.
Les gilets jaunes du Pays de Gex ont relancé une petite idée parce qu'elle a été perdue sur le Pays de Gex, c'est les maraudes. il n'y a plus de maraude sur le pays de Gex, c'est-à-dire que les gens qui sont SDF et qui sont à la rue n'ont plus personne qui leur vient en aide réellement. Donc eh ben, on s'est dit que nous, Gilets jaunes, eh ben, on allait relancer les maraudes dans l'hiver pour essayer justement de relancer cette entraide et ce geste social, réellement social, citoyen. Parce que ces gens-là, c'est des citoyens comme nous, ils n'ont juste pas eu de chance dans leur vie, et les laisser de côté, ben, c'est ne pas être citoyen. Et c'est vrai qu'au niveau de la France, on avait perdu un peu cette cohésion, un peu cette entraide, un peu cette fraternité qui nous est si chère, hein. Égalité et fraternité, elle nous était chère, cette lettre. Mais non, on l'avait un peu oublié, et ben, je pense que c'est un peu aussi à nous de remettre ça en route, de dire oui, on est tous soudés, quoi. Et s'il y en a un qui est à genoux, et ben on le relève. On ne l'enterre pas comme ils font le gouvernement, quoi. Parce que quand vous êtes à genoux, ils vous enterrent. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'en foutent et ils vous remettent une petite taque sur le dos. Vous avez les épaules à la serge, allez hop. Mais non, c'est plus comme ça qu'il faut que ça marche. C'est plus du tout.
Et donc, vous arrivez à avoir des projets, des discussions qui font qu'il y a des projets. Alors ça, c'est un projet très, très local. Vous allez du coup le mettre en œuvre. Alors la question se pose de savoir, pas de la gouvernance, mais comment est-ce qu'on fonctionne? On n'a pas envie, voilà, il n'y a pas envie d'avoir de chef, de représentant qui vienne monopoliser la parole. Donc vous inventez des nouveaux modèles, un peu de groupe pour arriver à générer des
idées. On n'invente rien, on discute. C'est beaucoup instauré sur le dialogue et sur le partage et sur l'échange des idées.
Et la communication.
Voilà, la communication. Ça, c'est très important pour nous que chacun soit pris en compte.
Je crois qu'en fait, c'est le mot d'ordre, la communication, communiquer entre nous, parler, dialoguer, échanger et mettre tous les mêmes idées sur la table et avoir tous le même point commun.
Et le respect.
Et le respect, oui.
Alors, qu'est-ce que vous, quand on regarde l'histoire des Gilets jaunes à la télé ou dans les médias, donc vous êtes bien placé parce que vous êtes à l'intérieur et en même temps, vous avez aussi accès à ces médias. Qu'est-ce que vous frappe, ouais, vous avez l'impression qu'on essaye de, que quelque chose essaye de tordre l'image, de manipuler.
Médias poubelles.
Ouais, alors, qu'est-ce que
médias poubelles, ni plus ni
alors, ouais.
BFM, CNews, LCI, TF1, France 2, France 3, ce que vous voulez, médias poubelles. C'est des gens, ils vous font passer un message, ils nous font passer pour des guignols, ils nous font passer pour des casseurs, ils nous font passer pour des gens qui ne respectent personne. Mais c'est pas vrai. C'est pas réel tout ça. C'est pas réel. On est en train de nous diaboliser, comme ils font à chaque fois, avec chaque mouvement qui se crée en France, on le diabolise. Ça donne du crédit à l'État. Ces gens-là, ils sont pilotés par l'État, ni plus ni moins. C'est des vendus de l'État. Donc ils vous font croire ce qu'ils ont envie de croire. Quand ils reçoivent des gilets jaunes, eh bien, au montage, ils coupent ce qui les intéresse pas et ils mettent bien en avant ce qui les intéresse, c'est-à-dire ce qui met en défaut le gilet jaune. C'est des médias poubelles. Pour ça qu'on a besoin de médias comme vous qui font passer des messages, des revendications, sans les censures et sans boycotter quoi que ce soit. On n'a rien à boycotter. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner de la qualité de vie pour chaque citoyen. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit au milieu, classe moyenne, n'importe. On veut une qualité de vie pour tout le monde. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Chacun travaille et j'estime qu'une personne qui travaille avec son salaire doit pouvoir vivre et non survivre. À l'heure actuelle, c'est ça. Il y a beaucoup trop de gens qui survivent de leur salaire. Et c'est pas normal. Un salaire doit permettre de vivre.
Moi, par exemple, il y a quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'on parlait justement que dans les Gilets jaunes, mais dans la France entière, on est tout genre de catégorie. Il y a une catégorie en particulier qui sont les grands oubliés, ce sont les personnes invalides, handicapées. Les gens qui touchent à peine 800 euros avec une allocation adulte handicapé, et cette allocation, elle est calculée par rapport au foyer. C'est-à-dire qu'un handicapé, s'il a un conjoint ou une conjointe, on va regarder le salaire du conjoint et de la conjointe, et si celui-ci est assez, je vais pas dire confortable, mais pas loin, on va abaisser l'allocation de la personne handicapée jusqu'à même lui couper entièrement. Donc en grosso modo, on est en train de dire aux gens, voilà, les handicapés, vous les gardez à charge, quoi. Vous débrouillez avec et on veut même pas s'en occuper. Savoir qu'un handicapé, 800 euros, il fait quoi avec 800 euros? À savoir que avec 800 euros, il dépasse le plafond. Ils ont même pas le droit à la CMU. La CMU, la couverture universelle pour le médical. Donc il est obligé de prendre une mutuelle à part. Mais quand on est handicapé, une personne handicapée, lui, il est pas comme tout le monde. Il est obligé d'avoir des tarifs hors public.
Il est considéré à charge par l'État. D'ailleurs, à sa mort, tous ses biens seront directement reversés à l'État. Ça, c'est une loi qui a été mise en place. Et ça, je trouve pas ça normal.
Je vais être méchant. Aux yeux du gouvernement, l'handicapé n'est pas rentable.
Exactement.
Et pourtant, c'est malheureux, il pourrait l'être.
C'est malheureux, mais
c'est... pourtant, il pourrait l'être, voilà, non, parce qu'il y a beaucoup d'handicapés qui sont capables mais de ça, faire beaucoup
ça,
de choses.
Ça, moi, tu parles inconvaincu. Mais ah bah, moi, je te dis, aux yeux de l'État, il n'est pas rentable. Et tout ce qui n'est pas rentable à l'heure d'aujourd'hui passe à la trappe.
Et alors, du coup, bon, on est quand même dans une région ici un peu particulière, on va dire peut-être privilégiée, parce que là, le pays de Gex profite quelque part du différence de taux de change avec la Suisse et voilà, côté international de Genève. Donc peut-être que les problématiques sont différentes. Est-ce que vous arrivez est-ce que les gilets jaunes gessiens du coup sont un peu différents du reste des gilets jaunes parce que alors ce problème d'handicapé c'est peut-être pas le même ici par exemple.
On a moins de soutien. Okay. On a moins de soutien parce que beaucoup de gens ne se sentent pas forcément concernés. Ils ont des gros salaires et puis quelques taxes en plus ne leur font pas trop mal. Mais ils réfléchissent mal parce que quelque part ces taxes là ils les payent aussi et moi j'ai envie de leur dire et d'ailleurs je vais profiter de leur dire messieurs dames vous avez des beaux salaires, si vous payez moins de taxes vous aurez encore de plus jolis salaires, pensez juste à ça. Moi je suis pas en train de critiquer les gens qui ont des gros salaires, bien au contraire, s'ils ont des gros salaires tant mieux pour eux et ils les méritent. Maintenant s'ils payaient moins de taxes ils auraient encore mieux, c'est tout ce que je peux leur dire, de réfléchir comme ça. Se dire, ok, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas que pour les pauvres, c'est pour tout le monde. L'essence, on la paye tous, les taxes, on les paye tous, le fuel, l'électricité, l'eau, on la paye tous à la maison, qu'on soit travailleur frontalier ou français. Donc, c'est pour tout le monde.
Alors, en même temps, je posais cette question aussi, parce que là, tout à l'heure, tu parlais des projets de maraude, comment t'appelles ça ?
La maraude.
La maraude. Et peut-être que dans le pays de Gex, c'est un pays, un endroit où ça coûte assez cher de se loger, de vivre.
Exactement.
Et du coup, il y a une pauvreté peut-être qui ne se voit pas.
Il y a une pauvreté cachée.
Oui, alors, est-ce que vous arrivez, voilà, ici, est-ce que dans les gilets jaunes, est-ce que c'est quelque chose qui émerge ? Est-ce que ça fait partie
On en est conscient, hein.
Oui, on en est conscient et puis on en discute. Parce que justement, on veut crever tous les abcès. Voilà. On est là. Si moi j'ai dit tout à l'heure, on veut changer la 5ème République, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il faut s'enlever de l'acquis pour repartir sur du neuf. Et si on veut repartir sur du neuf, il faut être conscient de chaque problématique de la de la population, de chaque citoyen. Si on n'a pas toutes les problématiques, on tourne en rond. On va faire du caca. On fera rien. Je veux dire, ouais, j'ai voulu dire autre chose, mais bon, des fois, c'est mon petit côté du sud. J'ai des mots qui me sont familiers. Mais on est obligé d'avoir chaque problématique sur la table pour pouvoir y réfléchir et savoir comment on peut contrer ça ou passer par-dessus ou régler la chose. Il faut qu'on le sache.
Donc, j'imagine que au bout d'un mois du mouvement des gilets jaunes, bon, la France et on connaît les nuits debout. On était aussi c'était très drivé par Paris et donc là ici c'est beaucoup plus étendu sur tous les territoires, mais il y a cette idée que quelles sont les stratégies, enfin c'est pas les stratégies mais comment est-ce que, j'imagine, vous réfléchissez à comment faire que ce mouvement se transforme, qu'il donne quelque chose, parce qu'évidemment il est attaqué pour qu'il se taise de partout et que ça disparaisse au moment des fêtes de Noël. On imagine que à Noël on sait pas ce qui va se passer, mais il y a un écueil là. Est-ce que ça va...
Il y en a qui montent leur sapin de Noël déjà sur les ronds-points. Donc,
ouais, alors voilà, vous êtes préparés.
La détermination, il y aura que ça. J'ai envie de dire, il y aura que la détermination. C'est comme on a fait là. Ils pensaient nous faire plier en nous donnant deux petits sons de cloche avec son 3% et puis son repoussement jusqu'à 6 mois. Et ben, on lui dit non. Et puis samedi, on sera encore dans la rue. Et puis samedi, on fera encore ce qu'il faut faire. Je dis bien attention, pas de casse.
Ouais, alors voilà.
Ça, c'est pas l'appel du gilet jaune.
Alors c'est peut-être le deuxième écueil un peu médiatique qui fait que le grand public, ou en tout cas les gens qui regardent ça à la télé, ils se disent non mais les gilets jaunes c'est des casseurs quoi, et
pas
c'est
du tout,
violent, non, ils font chier tout
en
le monde,
tout cas,
ils bloquent.
Jax,
donc ça aussi c'est faux, hein, faut bien.
Même ailleurs du pays de Gex. Après maintenant si les casseurs enfilent des gilets jaunes pour pouvoir se mêler à la masse et faire leurs conneries, on peut rien y faire, je veux dire quoi. Là, mais c'est la problématique.
Ce que je voulais dire par là, c'est que on peut revenir à la question des médias de tout à l'heure. Les médias mettent très souvent en avant le côté violence, etc., ce qui est normal. Parce que c'est ce qui va ressortir le plus concrètement. Si qu'on compare la quantité de personnes qui sont mobilisées par rapport aux gilets jaunes et la quantité de personnes qui démolissent ou qui cassent, mais on ne sait même pas si ça peut se déterminer en pourcentage, mais c'est clairement très faible. Nous, on était avec Margot qui a parlé tout à l'heure à Paris le 24. Voilà quoi, les gens qui balancent des pavés et tout, il n'y en avait pas tant que ça par rapport à la population qu'il y avait dans Paris. Et quand on voit les images derrière de LCI ou de BFM où ils vous montrent des petits cortèges de casseurs qui jettent de la caillasse sur du CRS, nous quand on voit l'étendue du peuple qu'il y avait dans les rues de Paris à ce moment-là, on est à côté de la plaque et on se rend bien compte que les médias ils détournent l'information pour nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, et que justement les messages un peu plus clairs qu'on est en train de passer ici soient le moins clair possible pour le reste de la population qui vont juste regarder la télé, quoi.
Sachant que justement le 24, il n'y a aucune radio ou télé qui a relayé les moments où on était assis par terre, où on était couché par terre devant les CRS, à leur réclamer justement le droit de passage, ce genre de choses, à chanter tous en cœur, tous ensemble, ces moments de solidarité, ces moments où... Voilà, on n'en a vu aucun des moments comme ceci à BFM.
Et alors aussi, on remarque quand on regarde ça à la télé que les caméramans, ils sont derrière les CRS.
Personnellement, j'étais à Paris ce week-end et j'ai vu TF1 et BFM, ils étaient tout en haut d'un immeuble avec leurs caméras pointées sur l'Arc de Triomphe et sur nous en particulier, et sur la violence en particulier. Et moi, j'ai regardé les images à la télévision, mais j'ai rien vu du tout de ce que eux, ils ont filmé, quoi, de ce que j'ai vu moi personnellement. Je voulais rebondir aussi sur le fait qu'on veut nous stigmatiser. Sur les gilets jaunes, casseurs, etc. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires et beaucoup de monde l'ont vu. Et je me pose vraiment des vraies questions. Je l'ai vu de mes yeux vus, ça. C'est vraiment une expérience qui m'a troublé. J'ai vu dans une camionnette de police où sortaient de la camionnette de police des policiers en civil revêtus comme n'importe quel gilet jaune avec un sac à dos et revêtir un gilet jaune et partir à la castagne dans les groupes. On se pose vraiment des questions. Est-ce que franchement, il n'y a pas eu une organisation pour essayer de discréditer le mouvement? Je me pose la question vraiment.
Ouais, alors c'est vrai ça. Ouais. Réaction.
Il y a dans les forces de police infiltrées, tu vas avoir deux cas de figure. Tu vas en avoir qui forcément, il n'y a pas que des gens bien. C'est comme dans les gilets jaunes, il n'y a pas que des gens bien. On a ça, c'est la population qui est comme ça. T'as des gens bien et puis t'as des gens cons. Donc t'as des cons au milieu. Et t'en as une partie. Il faut pas oublier qu'on est toujours en sécurité terrorisme.
Tout à fait.
On est toujours il y a toujours l'épée de Damoclès du terrorisme qui nous est sur la tête. Et ces gens-là sont au milieu infiltrés en sécurité pour le terrorisme, c'est-à-dire qu'ils ont un œil sans se faire repérer, on va dire. Mais après tu as une partie, c'est des guignols et qui vont chauffer les gars pour pouvoir aller au conflit avec le CRS. Voilà, là on a deux cas de figure. Mais on peut pas tous leur jeter la pierre non plus parce que c'est comme les CRS. T'as des bons CRS et puis t'en as, c'est un peu débouché. Ils aiment ça. Et ils aiment rentrer dans l'art des gens. Ils aiment taper sur tout le monde. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça, on va dire. Et puis dans les gilets jaunes, on a les mêmes, quoi.
J'ai eu la chance de discuter avec les deux cas des CRS. Moi, j'ai eu les CRS que j'ai vus qui faisaient du rentre-dedans si on veut. Et puis d'autres CRS qui étaient là en peloton. J'ai pu discuter avec eux. On a échangé, ils nous ont dit nous on n'est pas là pour vous faire du mal, on est comme vous, nous aussi on a exactement les mêmes idées que vous. Bah, le problème c'est que nous on a aussi un droit de réserve, on a des ordres, on peut pas faire comme on veut. Si on faisait ce qu'on voudrait, on serait pas là. Ils nous ont dit faut nous regarder derrière nos masques, derrière nos cagoules et derrière notre armure, on a un cœur aussi. Et ce qu'on on souffre
et des
avec
ordres.
Vous. Ça ils me l'ont dit. Voilà, je l'ai filmé et ils me l'ont dit clairement et sincèrement.
Alors, et du coup, quand on monte à Paris comme ça pour aller participer à une manif, alors j'imagine vous êtes partis ensemble en groupe, je sais pas, blablacar, covoiturage, train, oui, bus.
C'est organisé.
Ouais, vous êtes organisé. Et du coup, vous voyez les autres gilets jaunes, vous êtes senti, vous avez dit, ah ouais, vraiment, il y a un truc en commun on est tous là pour une raison, on sait pas trop laquelle, mais c'est la même. Enfin, en tout cas, ça nous rassemble. Vous
on
avez
sait
senti ça
c'est.
Ouais, mais vous avez senti une espèce de fraternité, comme on parlait, dont on parlait tout à l'heure, une fraternité nationale qui déborde. Ou c'est quand même pas si fantasmatique que ça, j'allais dire.
Ce qui se passe ici, notre secteur, c'est exactement ce qui se passe partout ailleurs. On a tous le même mot d'ordre, on a tous le même langage et on va tous dans la même direction. On parle tous la même langue. Et on est tous dans ce même monde, nous.
Donc c'est le peuple français qui se retrouve, c'est la famille du peuple
exactement.
Français, c'est ça, hein ?
Fraternité.
On est quand même... On est quand même là. Et alors du coup, on parlait tout à l'heure aussi, voilà, des CRS à Paris. Et du coup, voilà, Saint-Genis, ici au rond-point du CERN, les gendarmes, ils sont passés tout à l'heure, ils viennent vous voir, voilà, ils vous connaissent, ils sont pas là pour vous emmerder non plus.
Ça se passe cordialement.
Ça se passe, ça a l'air de se passer plutôt bien, non ?
Un grand merci aux forces de l'ordre du Pays de Gex parce que, oui. Franchement, rien à dire.
Exemplaire.
Rien à dire. Ils ont été très sérieux, très corrects avec nous, de bons conseils pour que ça se passe bien. Le 17, quand on a fait la manif et qu'on a bloqué un petit peu tout le Pays de Gex, on a travaillé main dans la main avec eux et c'est pour ça qu'on a eu pratiquement aucun incident et ça s'est super bien passé. Et ça moi, on a déjà fait une réunion juste derrière où on les a remerciés. On l'a mis sur la page aussi qu'on les remerciait et nous, on peut rien dire sur ça. Après, pour Paris, j'aimerais moi revenir. Moi, je suis un peu le garde-fou. Et ils le savent, hein, je leur casse les pieds à chaque réunion. Moi, à Paris, à chaque fois, je leur dis n'y allez pas. C'est un piège à crabe. Et Paris, c'est fait exprès juste pour aller vous taper avec les CRS, quoi. C'est juste fait pour ça. Parce que concrètement, faire des manifs à Paris, ça fera rien avancer. À l'heure d'aujourd'hui, sur le mouvement des Gilets jaunes, faire des manifestations à Paris, à part donner à manger aux médias poubelles et faire le jeu des CRS, ça ne fait rien d'autre. Ça ne nous fait pas avancer les choses. Nous faire avancer les choses, ça sera des actions plus concrètes comme c'est en train de se faire actuellement. C'est-à-dire que les dockers ont commencé à rentrer dans le jeu. Ils commencent à bloquer les ports. Dimanche soir, FO et CGT qui ont demandé aux routiers de se mettre en grève générale. Là, ça va commencer à bouger. Là, ça va commencer à être sérieux. Parce que là, les approvisionnements de magasins, vous pouvez rêver. Les approvisionnements de gasoil, vous pouvez rêver. Et puis là, peut-être qu'à un moment, ils vont se sentir un petit peu à l'étroit dans le slip.
Comme à la Réunion.
Voilà. Et là, ça sera des actions concrètes. Par contre, des manifestations comme sur Paris, à part donner de la viande hachée au CRS, ça sert à rien. Ça sert à rien.
Donc voilà, on est dans un ancrage local. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, on vous rappelle que vous êtes ici sur la radio, une radio alternative gessienne sur le net uniquement. Du coup, ton de parole, il n'y a personne qui est censuré ici. Pas de pub, pas de sponsor, donc que du vrai. On l'espère.
L'authentique. Petite Marseillaise.
Oui, petite.
Oui, en fait, je voulais revenir sur tout à l'heure, on vous parliez du Pays de Gex privilégié. Privilégié, c'est un grand mot. Pas tout le monde est privilégié. Ceux qui vivent ici sur le Pays de Gex, qui vivent en France, qui ne sont pas des travailleurs frontaliers, la vivent dur quand même, parce que le taux de vie est excessif. Par exemple, il faut savoir que les loyers ici sont minimum à 900 euros. Quelqu'un qui gagne 1500 euros, 1200 euros, 1300 euros, d'ailleurs c'est 1300 euros ou 1200 euros minimum, c'est invivable pour lui. Moi, je connais une petite dame, par exemple, sur Saint-Genis-Pouilly, qui est mère de famille, qui a 3 enfants. Elle travaille, elle vit pas au crochet de l'État, mais elle a du mal à joindre les fins de mois. Elle est à la limite de l'illégalité, elle a pas d'assurance maison, elle a pas d'assurance voiture. Ça devient très dur, quoi. Ensuite, on voit les conditions de logement, des T2 sur, par exemple, le parc Jean Monnet, à 1700 euros, qui peut se payer un loyer de 1700 euros. Savoir qu'un loyer, il est calculé à 3 fois le salaire de toutes les personnes qui veulent louer. Donc, si on fait le calcul 1700 euros, il faut gagner combien pour les avoir en 3 fois? Ça, c'est une chose. Et puis, il y a les logements sociaux qu'on a ici sur le Pays de Gex. Ils sont aussi mis à disposition à des prix à défier toute concurrence. C'est à coup de matraque sur la figure, quoi. Les gens ne peuvent pas se loger à des prix normaux. C'est parce que, voilà, les privilégiés, c'est ceux qui sont de l'autre côté de la frontière et qui font que, bah, ils peuvent, eux, venir ici parce qu'il y a de quoi les loger. Et eux, ils prennent ces logements à haut prix. Voilà, il y a des gens qui achètent, par exemple, des gens de l'autre côté qui les achètent ici, qui les mettent en location, et c'est ce qui fait la flambée des prix.
Alors là, on est aussi un endroit stratégique puisqu'on est au rond-point qui fait voilà le
enfin, son vrai nom, c'est Porte de France.
Porte de France avec une entrée directe sur Val-Thoiry, donc tout un ensemble de le samedi notamment de chers amis suisses qui viennent faire des courses. Et comment est-ce que vous sentez? Alors bon, pour spécifier quand même à l'ambiance le samedi, voilà, il y a le rond-point mais toute la journée, hein, ça tourne et il y a des gens qui klaxonnent parce qu'ils sont là pour vous supporter. On sent quand même cette énergie là. Est-ce que vous arrivez en même temps à avoir de l'hostilité? Est-ce que les... Alors, je voulais, ma question, c'est de savoir si les Suisses, entre guillemets, étaient. Vous sentiez qu'il y avait vraiment une différence énorme, une incompréhension et puis voilà des alors, les Suisses, enjeux qui n'étaient pas du tout partagés.
Les Suisses
ou pas
sont
du tout
comme les CRS et comme les Gilets jaunes, il y a des cons et il y a des bons.
Il y en a voilà. partout. Hein.
Pendant la manif du 17, tous les incidents qu'il y a eu, c'est-à-dire qui ont renversé des militants, c'était des plaques suisses.
Oui.
Ça, c'est déplorable, par contre. Parce qu'on est en train de mener un combat dans notre
pays. Mais là, ici, au rond-point de Porte-de-France.
Alors, ici, à Porte-de-France, à Ferney, au Carrefour La Poterie, à Gex, à Seigny, à Val-Thoiry. Donc, ça a été un petit peu... c'est ce qui nous a un peu choqué, parce qu'on s'est dit, bon, on est en train d'essayer de gagner un petit peu plus pour, en pouvoir d'achat et puis en gain de vie. C'est des gens qui devraient comprendre. Et ce jour-là... malheureusement, on aurait dit qu'il n'y avait pas de supermarché en Suisse. Il fallait vraiment à tout prix qu'ils viennent en France. Je veux dire, mais on l'avait annoncé depuis un mois que ça allait se bloquer. Donc, je veux dire, il y a un moment, soyez réalistes. Après, bon, ça, je remets aussi un petit peu la faute sur tous les médias locaux à qui j'ai demandé audience plusieurs fois pendant plusieurs semaines avant en leur disant, si vous vous plaît, j'ai un dossier brûlant là dans les mains. C'est le 17, la manif des Gilets jaunes. Est-ce que vous voulez qu'on en discute? On peut sensibiliser la population en leur disant attention, venez pas faire les courses ce jour-là, de toute façon tout sera bloqué. On aurait peut-être évité un chaos de voitures dans tous les sens et des bouchons énormes. Ces gens-là, ils auraient peut-être pu se dire bon, finalement, le 17, c'est peut-être pas bon d'aller faire les courses en France, on va peut-être les faire en Suisse. Les commerces en Suisse auraient été contents ce jour-là aussi. Mais je veux dire, il y aurait eu une cohésion, mais on m'a fermé la porte à chaque fois. Chaque radio, j'envoyais, on me disait non, pas intéressé. Pas intéressé, bon, ben tant pis. Mais ça nous amène justement à des débordements derrière, qui aurait pas dû y avoir. Et après, les Suisses, il y a eu des Suisses qui sont venus nous soutenir. Voilà. Il y a des Suisses qui sont venus avec nous sur les manifestations. Il y a eu des Suisses qui viennent avec nous là sur le rond-point, nous soutenir.
Ils nous
amènent du chocolat, ils nous amènent des choses, du café le soir des fois. On a des gens qui s'arrêtent avec des thermos de café, qui nous donnent du café. C'est comme tout.
Alors ces gens qui viennent vous apporter montrer une forme de soutien en vous donnant des choses. Alors est-ce qu'ils sont en quête de voilà, ils sont timides parce qu'ils osent pas venir vraiment, ils se renseignent, ils ont pas le temps, il fait trop froid, voilà, quels sont les
Il y en a qui ont pas la possibilité de venir avec nous sur les blocages. On peut le comprendre, hein. Il y a des gens qui sont très pris par la famille et le travail et s'ils lâchent l'un ou l'autre, ça peut amener des complications pour eux. Et du coup, peut-être qu'ils se sentent un peu, gênés peut-être de pas pouvoir être dans le mouvement. Et de par ce petit geste, ils nous donnent le soutien. Mais c'est très bien.
Alors, qu'est-ce qui vous a le plus étonné depuis un mois que vous êtes ici, la population qui est venue spontanément vous aider
On a l'entreprise Chevillard Agricole à Saint-Jean-de-Gonville. Qui vendredi dernier, juste avant le samedi, il savait qu'on allait faire quelque chose sur le rond-point du CERN, m'a contacté, m'a dit écoute, on peut pas être avec vous sur le rond-point, mais viens, je te donne un petit quelque chose. Et il a fait une donation de 100 euros pour acheter les grillades et les boissons pour le samedi, pour nous ici au CERN, pour qu'on ait quelque chose à manger et à boire. Et je trouve que pour un patron, c'est très respectable. Parce que il pourrait ne pas se sentir concerné, mais il se sent très concerné. Lui aussi, il a des camions qui roulent sur la route tous les jours et il passe les péages, il passe le carburant. Il sait ce que c'est, quoi. Il sait que c'est pas juste une guerre des pauvres. Voilà, c'est tout le monde. Tout le monde est impacté par ce matraquage fiscal du gouvernement.
Après, j'ai une petite anecdote par rapport à ce qu'on a fait le 17. Où on a pas bloqué, on a ralenti un petit peu le système ici sur le rond-point. C'est curieux quand même le phénomène qui s'est produit. Déjà, on a très bien compris ce qui se passait de l'autre côté en Suisse parce que on n'a pas du tout les mêmes lois, les mêmes sécurités au niveau de l'emploi. Savoir que là-bas en Suisse, l'absentéisme, enfin ou l'absence tout court, les patrons ça ils cherchent même pas à comprendre. C'est dehors quoi. Il n'y a pas de prud'homme comme nous ici en France pour nous protéger. Donc nous on n'a pas voulu empêcher les gens d'aller à leur travail. Mais ça n'empêche quand même que sur notre rond-point on a essayé de ralentir un petit peu. Alors que habituellement courant de semaine tous les jours on peut le constater, c'est une cohue sur ce rond-point. Et ben figurez-vous que notre mouvement, ça a plutôt fait bien les choses puisque ça n'a jamais aussi bien roulé, aussi curieusement que ça puisse paraître. Le flux, il était correct sur une seule voie. C'est quand même bizarre, quoi. C'est comme quoi il y a vraiment quelque chose à faire sur ce rond-point, moi je pense.
Ouais, bah il y a de quoi. Bah là, vous êtes en train de vous installer. Hein, on sent que. Alors, je sais pas si la stratégie à long terme des Gilets jaunes gessiens, c'est de rester sur ce rond-point du CERN. Mais vous avez là, samedi, vous avez monté. Enfin, moi, j'étais venu. Vous avez monté cette tente. Vous l'avez bougé. Enfin, on sent que vous êtes en train de vous structurer. Vous êtes. Il fait froid ici. Il y a pas de lumière, il y a pas d'électricité, mais vous êtes quand même là. C'est convivial. Vous allez. Voilà. Vous. Avez, c'est le centre névralgique. C'est ici que ça va se passer.
Et en plus, on y prend soin de notre rond-point. Ouais. On le nettoie. En plus, ça. On tourne autour, on cherche toutes les saloperies qu'on peut trouver de partout. On a rempli des sacs de tout et n'importe quoi entier, oui. On y tient, nous, à ce rond-point.
Et du coup...
On attaque les fondations bientôt, ça se dit.
Il y a un truc à savoir, c'est que le rond-point du CERN, c'est surtout un lieu de rassemblement pour les manifestants qui ont manifesté dans la journée. Donc je prends l'exemple de ceux qui font les blocages des péages à Bellegarde, par exemple, qui, une fois les blocages terminés, passaient une certaine heure, viennent ici débriefer un petit peu de la journée, voir un petit peu comment ça s'est passé avec les gens. Nous, par exemple, on a eu des douaniers, des gendarmes qui nous ont donné leur ticket d'autoroute en passant au péage gratuit. Ce genre de détails qui font rire un peu tout le monde. Et puis voilà, on se regroupe ici aussi pour donner les infos sur les prochaines choses à venir. Par exemple, là, on sait que ce soir, on va discuter un petit peu de ce qui, des actions qui vont être menées pour ce samedi. Donc, on va dire que c'est un petit peu le QG général du Pays de Gex pour prendre les infos, quoi.
Et ça montre que le mouvement est là toujours.
Et alors comment ça se passe un peu sur ce péage de Bellegarde? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos qu'on n'a pas à la télé, mais les gens comment ils reçoivent tout ça, comment ça se passe?
Ça se passe assez bien quand même, hein, dans l'ensemble.
Ouais, ça se passe super bien en général. Là le péage de Bellegarde, on s'est bien installé, donc c'est-à-dire qu'il y a une tente, il y a le feu, il y a tout ce qu'il faut. Les gendarmes passent de temps en temps pour voir si ça se passe bien. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton de la... Vous savez, quand vous avez plus votre ticket, vous avez une personne qui vous parle au péage. On appuie, on dit bonjour, on est les gilets jaunes, puis ils ouvrent les barrières, hein, ils cherchent même plus à comprendre.
Ils ouvrent les barrières
avec le feu vert, avec la flèche verte qui explique bien aux gens qui peuvent passer par là. Donc du coup, les gens, comment ils réagissent à ça? Ils sont contents parce qu'ils passent, ils payent pas. Donc forcément, les 30 ou 40 euros pour ceux qui viennent de loin et qui vont mettre dans leur péage, ce sera peut-être pour les cadeaux de Noël. Donc du coup, ça rajoute un peu du pouvoir d'achat aux gens. Et là-dessus, j'aimerais venir sur par rapport à beaucoup de gens en fait qui pensent que le blocage de, enfin l'ouverture de ces péages est pas forcément utile parce qu'on n'attaque pas les bonnes personnes, etc. Et je pense que voilà, pour reparler un peu de la structure du mouvement des gilets. Le 17, ça a été vraiment une opération coup de poing où effectivement il y a eu des blocages, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment, je m'excuse du terme, mais on a vraiment fait chier la population aussi pour que tout le monde se rende bien compte qu'on est bien là, quoi, que tout ça c'était pas ça s'est vraiment fait, mais ça nous a permis aussi ces gros blocages massifs derrière d'organiser des actions qui n'auraient en fait en compte pas pu être faites si on n'avait pas fait ces blocages, comme le blocage des finances publiques et de la sous-préfecture qu'on a fait le lendemain. C'est le genre de choses que je pense on n'aurait jamais pu aller avec une quinzaine de gilets jaunes devant la sous-préfecture et devant les finances publiques bloquées, mettre une voiture devant la porte s'il n'y avait pas eu ces blocages antécédents.
C'est
ce que je veux dire, qui ont permis un petit peu de faire en sorte que le mouvement puisse se permettre des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre sans ça, quelque part. Et aujourd'hui, le but étant de plus faire chier les gens. Au contraire, même l'inverse. Donc, je pense que l'ouverture des péages, c'est quelque chose qui rapproche la population, qui montre qu'on est toujours là, qui d'un côté fait perdre de l'argent aussi à des grosses multinationales qui s'en foutent plein les poches, dont on a cité un petit peu tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, on est plus dans le côté, en tout cas pour la région, faire beaucoup d'actions pacifistes qui rapprochent les gens du mouvement plutôt que les empêcher d'aller au travail, les empêcher de faire les courses comme on a fait le 17.
Ouais, donc on peut pas. Oui, prise de parole. Merci.
Samedi dernier, c'était magnifique. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. À Bellegarde, à Éloise, c'était magnifique. J'étais sur Bellegarde et Éloise de 10h du matin à 23h30. On a fait une ouverture des barrières de péage. Les gens nous donnaient à manger, des sourires, des bananes jusque-là. Pour certains, comme a dit Alex, qui arrivaient de loin, de Paris ou de l'Est de la France, qui ont eu la possibilité de pas payer le péage, sur des zones de 42 euros, par exemple. Paris et l'Oise, 42 euros, c'est magnifique. Ils avaient la banane, ils nous donnaient à manger. Et c'était bien, il y avait la fraternité, c'était sympa, on a pu discuter et tout. Et avec ma voiture, moi je parle pour moi, j'ai fait un ou deux allers-retours entre le péage de Bellegarde et le péage des l'Oise pour amener du ravitaillement, aller-retour. Et c'était bien parce que c'était gratuit.
Ouais, alors du coup là on peut s'imaginer effectivement c'est la population, le peuple là se dit bon les gilets jaunes c'est cool hein, c'est gratos, Non, mais c'est mieux que...
Justement, voilà. D'ailleurs, je veux remercier aussi Bellegarde pour l'accueil qu'on a eu samedi soir. Oui, on est revenu de Paris. Les barrières, elles étaient ouvertes à Vouvray. On a eu un accueil triomphal de notre arrivée. Franchement, ça nous a mis vraiment du baume au cœur et des larmes aux yeux. On a vraiment été accueillis comme des rois. Ça a été vraiment très chouette, quoi. C'est un bon souvenir. Voilà, c'est des souvenirs comme ça qui resteront. Voilà, c'est superbe, quoi. Comme disait, c'était génial.
Bah, j'imagine que tout d'un coup, on se dit, tiens, mais c'est possible, en fait.
Oui, c'est possible.
On n'est pas obligé de payer un truc à une organisation là-haut. Je sais pas, c'est l'APR, non, je sais pas comment ça s'appelle.
ATMB. Il faut pas oublier une chose, et très importante, c'est que, à la base, les autoroutes, nous, on les a payées. On les a payées avec nos impôts. Et aujourd'hui, ça a été privatisé. Et, on paye encore quelque chose qui a déjà été payé, quoi. Et ça,
ça devait être gratuit.
C'est quand même inouï, quoi.
Après financement, les autoroutes devaient être gratuites. Sauf qu'ils ont été privatisés. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils privatisent tout. L'eau, l'électricité, le gaz. Tout est privatisé. Alors que, sachant que l'eau, on n'a pas le droit de privatiser une source. Pourtant, ils la privatisent tous.
Ouais, donc on a bien cette.
C'est en train d'être mis en place d'ailleurs pour la source. Ils veulent privatiser justement la source de Divan. Et il y a la fondation Colibri qui est en train d'essayer de s'en charger et c'est assez problématique.
Ouais, il paraît qu'ils veulent l'envoyer en Chine d'ailleurs, l'autre Divan. Du coup, il y a bien cette privatisation des ressources naturelles, depuis 200 ans, enfin depuis que le capitalisme est là, on privatise et du coup, les profits ils vont.
Merci les lobbies.
Et puis du coup, nous, on paye une rente, quoi, tout le temps. Tac, tac, tac.
On est juste bon à payer des grosses vaches à lait. Sauf que là, les vaches, elles ont plus de lait. Voilà.
On a plus envie de faire des enfants.
Est-ce qu'il y a des petites questions dans le public? Alors, c'est une émission en direct, en dehors, dans le public, avec des. Alors, pas tout le monde a des gilets jaunes. Non, il y a quand même beaucoup de gilets jaunes, mais. Et c'est l'occasion, point de vue, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter, apporter un témoignage, une anecdote?
Qu'elle a envie de dire, elle se retient. Moi, je pense qu'elle va peut-être l'inviter quand même à dire ce qu'elle a envie de dire.
Alors, moi, je suis une bonne citoyenne française. Je suis auto-entrepreneur à mon compte. Et depuis que je suis à mon compte depuis 5 ans, je donne plus de la moitié de mon chiffre à l'État. Je suis agent immobilier dans le Paygex et je devrais bien gagner ma vie. Mais malheureusement, ce que je dois déclarer à l'État, c'est plus que la moitié de mon chiffre. Sans compter après les impôts qu'on me prend, taxes d'habitation dans le Paygex et taxes foncières, plus toutes les charges qu'on a à payer. À la fin du mois, mon frigo, il est comme tout le monde et tous les Français, parce qu'on est la classe laborieuse, bien sûr, merci Macron, hein. Mais on est des travailleurs, contrairement à tout son petit gouvernement qui est payé plus de 5000 euros, hein, et qu'on va augmenter encore ses salaires, alors que nous, on travaille, on trime, on rime, on raque, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne survit pas, on vit pas et on ne survit pas. Et là, il y a le problème. Donc aujourd'hui, oui, ils vont s'attraper une belle jaunisse au gouvernement, une belle jaunisse, hein, parce que moi, tout dans mon bureau où je suis, tout est jaune, jusqu'à mon gilet. Je bois du citron, mon crayon, il est jaune, tout est jaune. Mais ils vont finir par une belle jaunisse. Maintenant, la colère, elle est là. L'exaspération, c'était d'abord une exaspération, mais maintenant, c'est une colère qui est montée. Et là, on a des menaces pour dimanche, pour samedi. On a des menaces parce qu'ils vont augmenter les forces de l'ordre et qu'ils vont pas faire de différenciation entre les manifestants casseurs et les manifestants jaunes. Dans ce cas-là, moi qui attendais de monter premier samedi, deuxième samedi, 24 et 1er décembre, je suis pas allée à Paris. Mais là, monsieur Macron et son petit gouvernement, je vais y aller à Paris. J'y suis jamais allée. C'est une bonne occasion d'y aller à Paris parce que j'avais pas les moyens d'y aller. Je vais prendre le bus à Bellegarde pour 20 euros aller-retour et je vais monter à Paris cette fois-ci. Mais qui touche juste un centimètre de mon ongle et je répondrai pas de mes actes. Mais qu'après, ils ne parlent pas de révolution parce que là, la colère des Français, elle est montée à son maximum à 10 000%.
Ça, c'est la température. Voilà. Bravo, vous l'avez, vous lisez la température, vous l'avez.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter dans l'assistance là, alors, quels sont ces... Ouais, tu veux dire quelque chose?
Je pense que la colère a été très bien exprimée et en live, c'était parfait.
Ouais. Oui, c'est clair, quand on se réveille la nuit et qu'on va regarder notre frigo parce qu'il fait un bruit bizarre, qu'on ouvre le frigo et qu'on voit que les grilles elles sont vides et qu'on a un œuf et un kiwi qui se battent entre eux pour savoir qui c'est qui va prendre la grille du haut, voilà, ça on se pose des questions, quoi.
Moi,
j'ai juste une petite question pour tout le monde, pour savoir si éventuellement ou je suis fou ou est-ce que tout le monde pense pareil. Est-ce que ça n'offusque que moi de me dire que on essaye de nous rassurer en nous disant on vous donne 3% de plus sur votre SMIC, en sachant que les cabinets de ministères ont été augmentés de 26% alors qu'ils étaient à 5 300 € par mois. Je suis en train de me demander si vraiment je rêve ou si je suis bien réveillé. Là, c'est des questions, moi, que j'aimerais que tout le monde se pose. Parce que nous, on nous dit, on vous fait un cadeau, on vous donne 3%. 3%, c'est 27 euros. Plaisanté. Eux, ils prennent 5000, plus de 5000 euros par mois, ils s'augmentent de 26%.
Avec quel argent vous avez réussi à faire ça, en fait ?
Balkany, ils s'augmentent de 56%. Tout va bien. Tout va très, très bien. Tout va très bien. Mais nous, par contre, on n'a pas le droit.
Bah alors, pour tous ceux qui...
Oui, mais tu comprends.
Pour ceux qui voilà qui ont envie, qui se posent la question, qui savent pas, les gilets jaunes, c'est moi, c'est pas moi, j'y vais pas. Est-ce que je vais me faire casser la gueule? Est-ce que va m'empêcher d'aller faire des courses? Est-ce que voilà, c'est et samedi, donc il y a une nouvelle étape là qui se prépare. Donc vous avez une réunion là tout à l'heure. Vous allez préparer, penser, avoir des moyens d'action. Est-ce que voilà, j'imagine que vous allez pas divulguer, ça reste un peu secret parce qu'il faut que ça soit un peu, j'en sais rien. Est-ce que vous avez envie que les gens viennent vous rejoindre?
Bien sûr.
Vous proposer des point de rendez-vous, est-ce qu'il y a d'autres manières de participer que de venir passer du temps avec vous? Alors il y a des initiatives sur la maraude là, ouais, qui se met en place. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui hésitent, qui se sentent pas forcément encore très en accord, mais qui partagent voilà ce constat que la vie est de plus en plus difficile, mais qui font pas le pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que...
Déjà un petit message à tous ceux qui ont des commerces qui font du fruit et légumes, des denrées. Au lieu d'envoyer à la casse vos denrées périssables avant qu'elles arrivent en casse et que ça parte à la destruction, contactez-nous et on s'en servira sur les maraudes pour faire des soupes, pour faire à manger, pour faire les maraudes justement. Ça c'est une chose où on va nous aller démarcher les centres commerciaux, les magasins, en leur demandant de récupérer la casse, tout simplement quoi. C'est du déchet, c'est de la perte pour eux. Mais pour nous, c'est pas du déchet parce que c'est des choses qui sont encore très consommables. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on jette ce qui est encore consommable. C'est malheureux. Hein. Il y a une petite tache dessus, ça va plus au consommateur. Tout ça, il faut le changer aussi. Je veux dire, il y a des initiatives qu'il faut qu'on prenne tous en main. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, les gens qui veulent rejoindre le mouvement des gilets jaunes, ils sont les bienvenus. On est un mouvement pacifiste. Il y a pas de casse chez nous. Il y a pas de combat, de conflit. Il y a rien. C'est une bonne entente et on essaye justement de travailler tous ensemble les uns les autres. Et j'aimerais justement qu'il y ait plus de monde pour qu'il y ait plus d'idées et plus de partage. Et on arrivera, je suis sûr, à des choses très cohérentes derrière.
Puis j'ai aussi envie de dire aussi aux gens qu'ils ont envie de se mobiliser pour aller à Paris, leur adresser le message que ceux qui vont aller là-bas, qui s'attendent pas à aller au pays des bisounours pour aller coiffer des Barbies, c'est vraiment autre chose là-bas. Faut vraiment s'attendre à quelque chose de très très costaud, de très chaud, gazé pendant des heures, se faire rentrer dedans alors qu'on fait rien. Voilà, faut qu'ils le sachent. On voit la télé, c'est une chose, ce qui s'y passe là-bas, c'en est une autre. Donc c'est pas le pays des bisounours du tout, et ils vont pas là-bas pour aller coiffer des Barbies. Ça, je leur dis clairement. Ça, il faut qu'ils le sachent.
Donc samedi, alors est-ce qu'on peut vous retrouver même symboliquement pour participer, prendre contact, vous rencontrer et puis de donner un petit peu de... Sur Facebook ?
Via Facebook, ouais.
Ok, donc soit il y a un groupe...
Gilets jaunes... Gilets jaunes gestiens. Ils vont dessus, ils cliquent. Pas de problème, on est là et on leur explique tout ce qu'il faut. On leur dit où il faut aller, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas.
Et pour les moins frileux, venir sur le rond-point du CERN, voilà. Partager une petite saucisse.
Ouais, exactement. Mais venez n'importe quel jour, il y a du monde tous les jours sur le rond-point du CERN, à part vraiment s'il tombe des cordes et on est des êtres humains comme les autres. Il y a des moments où on a besoin d'être au chaud avec maman et on reste humain. Mais il y a du monde quasiment tous les jours, pratiquement tous les jours. Et tous les jours, il y a du monde. Donc ils peuvent venir au contact des Gilets jaunes qui sont sur le rond-point du CERN, qui sont très accueillants. Ici, il n'y a pas d'alcool, pas de drogue. Ça se passe très très bien. Il n'y a aucun problème. On est ouvert à toute discussion, même avec ceux qui ne sont pas d'accord. Au contraire, on peut débattre avec ceux qui ne sont pas d'accord parce qu'on n'a pas la science infuse et on peut trouver des terrains d'entente sur la discussion et sur le partage. Voilà.
Donc pas de blocage prévu samedi
dans le Pays Gex.
Ouais.
Non, dans le Pays Gex, il n'y en aura pas.
Pas du coup là, c'est plutôt de la manifestation pacifique avec cette idée qu'on peut récolter éventuellement des surplus pour partager avec la
Mais
population qui est un peu
aller
plus
ailleurs,
En tout cas, le Pays Gex peut aller ailleurs.
Exactement, on se
mobilise. C'est-à-dire que il y a des blocages, il va y avoir des blocages au niveau des péages. Donc les péages, on va les renforcer sur les péages.
Alors c'est pas des blocages, du coup c'est des barrières ouvertes.
Barrières ouvertes, mais ouais. Je veux dire, il faut du monde pour ça. Il faut qu'il y ait du monde présent. Après, je pense qu'on va commencer peut-être un peu à les titiller, les les raffineries ou alors les centres, comment dire, le dépôt de carburant sur Annecy. Voilà, on va débattre de tout ça, mais je pense qu'on va envoyer des équipes un peu à droite à gauche. Et puis le Pays de Gex, il y aura toujours quelqu'un. Par contre, sur le rond-point du CERN, sur le rond-point du CERN, on dit généralement que les femmes qui veulent pas aller sur des points de blocage un peu chauds, peut-être, et on le comprend très très bien, les anciens, parce qu'il faut les ménager. On n'est pas des fous non plus. Je veux dire, moi, je me vois pas dire à un papy, écoute, tu prends ta voiture, tu montes à Paris et puis tu vas castagner du CRS. Tu vois, il faut rester cohérent. Donc ces gens-là, moi, je les invite à rester sur le CERN parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour montrer que le mouvement n'est pas mort. Le mouvement est là. Et le rond-point du CERN, pour nous, c'est ça.
Bah, il est loin d'être mort, là, non, ou pas?
Là.
Ouais.
Ah, il est très très loin d'être mort.
Il est très loin d'être mort,
surtout quand on voit les chiffres qu'ils annoncent à la télévision, que c'est à mourir de rire. Le dernier samedi, 100 000 personnes sur l'ensemble de la France. Où ils ont un problème de
Je crois que j'ai pas été compté, moi, sur mon site. Qui a été compté sur son site? J'aimerais dire juste un petit mot, c'est que les Français, on a la réputation qu'on aime bien se plaindre, qu'on est des râleurs. Mais à un moment donné, il faut arrêter de râler et il faut ouvrir les yeux. Quand on râle, c'est quand on prend une pelle et qu'on creuse son trou. Mais je pense que les Français, ils en ont marre de prendre la pelle et de creuser le trou. Donc là, on n'a plus envie de creuser le trou, on a envie de le boucher. Maintenant, on est très pacifiste. C'est le gouvernement, et comme je l'ai dit plusieurs fois sur Internet, c'est le gouvernement qui est agressif et qui pousse les forces de l'ordre, qui sont normalement avec nous dans leur comportement. Normalement, ils sont avec nous, mais ils sont obligés de respecter des ordres. Par expérience, je peux en parler parce que j'étais police nationale avant. J'ai démissionné à cause du danger parce que je suis une femme. Mais je sais que mes anciens collègues de police nationale, que ce soit des gendarmes ou des CRS, parce qu'il y a des femmes aussi dans les CRS aujourd'hui, ces gens sont mal payés, ils sont sous-estimés et mal payés. Il y a de l'infériorité des troupes également parce que le gouvernement ne récompense pas ces gens-là par le mérite du leur travail. Parce que quand on parle du gouvernement qui est à 5000 euros payés, plus de 5000 euros parce qu'ils font des métiers de responsabilité, mais on se fout de notre gueule. Parce que les marins-pompiers, les sapeurs-pompiers, l'armée, les CRS, les gendarmes, tous ces gens-là, c'est des métiers à risque plus que le gouvernement qui choisit les lois pour nous. Et les lois, quand elles sont votées, il faut faire des référendums pour demander aux citoyens si ces lois qui doivent passer sont correctes ou pas pour le bon sens et le bien-être de chaque citoyen. Malheureusement, tout ce qui est voté aujourd'hui ne va pas dans notre sens, mais dans leur sens à eux. Et à chaque fois, c'est nous qui sommes ponctionnés. Donc aujourd'hui, le mouvement, il est pacifiste. Maintenant, il a voulu faire des efforts, Édouard Philippe, hein, Fifi? Il a voulu faire des efforts avec Castagnette et puis Macouille. Excusez-moi de parler comme ça, mais moi, j'en ai rien à battre de ces gens-là. Parce qu'il faut qu'ils démissionnent, les trois, hein, les trois frères, les trois raqueurs, hein. Il faut qu'ils démissionnent parce qu'ils sont incompétents. Incompétents. Et rappelons-le, Monsieur Macron, notre cher président, n'est pas un politicien. C'est un banquier qui sort du jupon de Rothschild. Donc, il n'a pas un esprit politique, il a un esprit de banquier. Et on sait ce que c'est, nous, à côté, vivant à côté de la Suisse, on sait ce que ça veut dire, le pouvoir de l'argent. Et lui ne respecte pas le sens du citoyen, il respecte ses poches. 500 000 euros pour de la faïence, 1 million d'euros pour rénover la chambre de l'Élysée. Non, mais il faut arrêter les conneries maintenant, stop. Nous, l'argent, on en a besoin, nous, les citoyens, on a faim comme lui. Mais moi, aujourd'hui aussi, je voudrais manger dans une assiette en porcelaine et une cuillère en argent, parce que moi, je veux faire comme lui, partir en voyage, mais je ne peux pas. Donc maintenant, on va se battre pour que les lois et les égalités soient rétablies. Point. Point à la ligne.
Tout à fait, ouais.
Bravo. S'il veut faire des efforts, évasion fiscale. Là, il peut faire des efforts.
Ouais, bien
sûr. Parce que l'évasion fiscale nous coûte des milliards.
Une chose aussi qu'on n'a pas dit, 80 milliards par an. Donc, c'est aussi ce problème-là. Il nous rabarbe depuis quelques années, quelques mois, et encore aujourd'hui, sur l'impossibilité de faire augmenter le SMIC. On nous parle, il faut réformer le pays, il faut réformer la France, parce qu'on est à la traîne, etc. Mais quand on regarde ce que c'est que le SMIC, c'est une formule qu'ils ont mis en place il y a des années et des années en arrière, qui est calculée par rapport à l'inflation. Un vieux calcul, quoi, qui n'a plus lieu d'être, quoi. Ce calcul-là, au niveau du SMIC, devrait être lui-même réformé. Qu'est-ce qu'on attend pour le réformer, pour qu'on puisse avoir des salaires corrects? Parce qu'on est vraiment, on va augmenter le SMIC de 1 ou 2% par rapport à l'inflation. Tout augmente, sauf les salaires. C'est ça le vrai problème. Donc, au lieu de réformer les choses, soi-disant, qui sont réformables,
faut déjà commencer par réformer cet algorithme de calcul du SMIC, qui c'est une aberrance totale. C'est la réponse qu'on nous a dit, oui, mais vous comprenez, on peut pas faire comme vous voulez au niveau du SMIC, parce que c'est une algorithme, une formule qu'on a, qui date depuis Mathusalem, qu'on a mis en place pour pouvoir faire l'augmentation du SMIC. C'est du grand n'importe quoi. On est bien d'accord. Là, c'est de la politique de l'autruche.
Bon, en tout cas, bonne ambiance ici au rond-point de Saint-Genis. Si vous écoutez, que vous posez la question en disant mais les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire, pourquoi ils sont là, venez les rencontrer, hein. Ils sont voilà, tout le monde est ouvert, content, on est là pour le partage, pour justement pas créer de fractures. Les gilets jaunes, c'est un mouvement accueillant qui vise à écouter, prendre en compte les besoins de la majorité de la population. Ils sont pas là pour faire chier le monde, hein. J'espère que vous avez bien compris tout ça avec des barrages, c'est juste des moyens voilà d'exister, hein, qui se trouve que le peuple français est assez fort là-dedans, donc il y a cette tradition-là. Peut-être un petit dernier mot avant de conclure cette émission, voilà, pour donner espoir, envie, pour se dire que on n'est pas dans une logique de conflit, que peut-être le gouvernement va faire des... Voilà, il n'est peut-être pas à sa place, mais bon, ça fait un bout de temps que le gouvernement n'est pas à sa place, c'est un système qu'il faut changer.
C'est clair.
Est-ce que vous avez de l'espoir que 2019 apportera des solutions, ou bien quand même...
On a l'espoir et la fougue de la jeunesse, et c'est pour ça que nos actions ne s'arrêteront pas, et on va encore en discuter ce soir pour élaborer les meilleures stratégies pour obtenir notre gain de cause, et qui est important parce que c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple.
Le 17, il a cru que c'était du bluff, que ça allait passer comme ça en 2-3 jours, et qu'après on n'en parlerait plus, et que tout le monde rentrerait chez soi. Sauf qu'on est encore là, 3 semaines après, et que moi je le dis, franchement, on ne lâchera rien.
Moi
rien. On continuera, même s'il faut que ça soit Noël, il faut que ça soit le jour de l'an, Pâques, ça mettra le temps qu'il faudra, parce que ça a mis du temps pour arriver à nous pourrir la gueule, et nous on va mettre le temps pour sortir de ce pourrissement où on nous a mis. Et le mot d'ordre, c'est vraiment pacifique, c'est citoyen, c'est...
Voilà, ma voisine parlait qu'on avait la jeunesse et la fougue, mais il y a certaines personnes qui ont l'âge et la sagesse, et ils savent ce qu'ils font. Voilà, et on a un grand, grand espoir, et on va continuer, mais jusqu'au bout. De toute façon, il y en a beaucoup qui n'ont pas grand-chose à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre, en fait. Et ceux-là, attention, quand ils se réveillent, ça va le faire très, très mal. Donc, je pense que Macron et toute sa clique, notamment Macron, ça serait bien qu'il vienne nous dire un petit bonjour à la télé, nous dire quelques mots au lieu de se cacher derrière dans ses bureaux ou aller se promener, voir on ne sait qui.
Exactement, c'est la voie de la sagesse. On n'a plus rien à perdre, vu qu'on n'a plus rien du tout.
Donc voilà, un mélange ici des générations, là de 7 à alors plus 77 ans ou 77 ans, ça va jusqu'à 97 comme on dit nos amis suisses, et voilà, et puis alors même si vous avez de l'argent et que vous n'êtes pas dans ces que vous pouvez quand même vivre décemment, il y a un combat ici pour la survie de la planète, hein, pour qu'on change de système, pour que ça soit une transition, donc ça concerne, si on ne concerne pas vous, ça concerne vos enfants, les gilets jaunes s'approprient ces thèmes-là, ils en discutent, ils sont pas contre, ils sont de nouveau plein de bonne volonté pour proposer, imaginer et rencontrer, être à la rencontre du peuple. Hein. Et le peuple, même si là où il y a des sous, vous faites aussi partie du peuple, hein, en gros. Merci à tous pour cette émission en direct du rond-point de Saint-Genis-du-Cerne avec les gilets jaunes.
Merci à vous de même.
Vous êtes tous les bienvenus.
Émission en podcast sur YouTube de Wild Logix pour tous ceux qui nous écoutent par la suite. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Merci.